France Inter, le 7-9.
Claude Askolovitch, on parle d'un amour ce matin.
Qui est une petite flamme tenace dans le cœur d'Albéric, 91 ans, que j'entrevois dans un doux reportage de Libération sur un EHPAD breton quand le Covid revient. Mais Albéric n'a que faire de l'actualité et d'une maladie quand tout près de lui, Rolande l'a oublié. Rolande, sa femme, sa fusion, sa complice, comme lui, pensionnaire des Jardins du Castel à Château-Giron en Ille-et-Vilaine, mais elle est hospitalisée dans l'unité des maladies neurodégénératives et la maladie l'a emportée. Je l'ai gardée chez moi, chez nous, pendant 4 ans. La dernière fois que j'ai pu aller la voir, elle ne m'a pas reconnue, dit Albéric. Il pleure, il est vêtu d'une chemise bleue et du pantalon du dimanche. Même au plus fort du premier Covid, elle allait encore voir Rolande. Un apéro le dimanche soir, ça lui suffisait. Mais elle ne sait plus qui il est. Voilà mon vrai calvaire. L'amour de Rolande est une chose que je n'accepterai jamais de perdre. Et au milieu d'autres vieillards que vous lirez ce matin dans Libé, c'est Albéric qui nous dit mieux que personne que la maladie ne nous borne pas. Il est en vérité sur le Covid 2 journaux à lire ce matin, Libération donc et La Croix, qui d'un chiffre écrasant à sa une, la maladie a fait 1 million de morts, va chercher des destins de héros. Li Wenliang, qui avait donné l'alerte en Chine. Roberto Stella, qui soignait son prochain à Busto Arsizio en Italie, mais le soignait sans masque ni visière, nous n'y étions pas encore. James Mahoney, qui avait affronté toutes les maladies à East Flatbush, quartier noir et pauvre de New York, et dont le nom sera donné à une bourse pour étudiants en médecine afro-américains. Estela Yesenia Torres Rodriguez, infirmière de Jacaliente au Mexique, dont le corps après sa mort fut incinéré sous une mauvaise identité. Nul n'avait osé soulever son linceul de peur d'être contaminés, des soignants sacrifiés de la famille des médecins hospitaliers de Marseille qui, dans la Provence, avertissent leurs concitoyens qui se dressent contre les restrictions. Eux, à l'hôpital, commencent à être débordés. Va-t-on les entendre ou la révolte des politiques et des cafetiers sera-t-elle la plus forte ? Dans l'opinion, le chroniqueur désabusé Éric Le Boucher s'interroge sur la popularité en hausse du président brésilien Bolsonaro en dépit des morts du Covid dans ce pays où le chef d'État affrontait la grippette en homme, merde. J'avais pensé, dit Le Boucher, que la bravade idiote et l'incompétence crasse allaient forcément se transformer en sanction des électeurs. Erreur, Bolsonaro est récompensé d'avoir préféré l'économie à la santé. Est-ce transposable chez nous ? Ces Français qui réagissent comme des Brésiliens, accepteraient-ils le double de morts, se demande Le Boucher, qui met au défi les maires de Marseille et de Paris de parler franc.
On parle aussi d'un écrivain ce matin.
Qui parlait franc et parlait de la France et de son monde, peuplé de la Corrèze, du général, de son ami Chirac, du rugby et de la nostalgie intense, et qui, au début de ce mois, revenant d'une église où l'on avait baptisé une nouvelle cloche, écrivait une ode à ce qui ne sera plus. On visitera les vestiges de cet ancien monde où les vivants n'en finissaient pas de dialoguer avec leurs antécédents. Dans le nouveau monde, qu'ils soient morts ou vifs, ils sont seuls au monde, dos au mur face à un précipice, écrivait Denis Tillinac dans une de ses dernières chroniques pour Valeurs Actuelles que le journal remet en ligne sur son site. Tillinac est parti entre vendredi et samedi, mais c'est ce matin que son départ prend toute sa dimension affective et politique, car on lit ce qu'une droite, qu'on dira réactionnaire, devait à cet homme qu'il incarnait, mais on lit aussi bien des mots d'immense amitié. Le numéro 2 du Point, Olivier Le Foll, se souvient de Tillinac croisé dans une librairie du quartier latin, lui disant « Tu as de bonnes lectures, fils », en voyant ses emplettes, Barbet d'Aurevilly et Monsieur Focas de Jean Lorrain, deux auteurs du 19e siècle, l'aîné était devenu un temps le mentor du jeune homme. Le Figaro met Tillinac à sa une, serez-vous étonné, et la compagne, serez-vous surpris des mots d'Éric Neuhoff. Les mots, il driblait avec. Les églises romanes le touchaient au cœur. Pour lui, les stades étaient des cathédrales. Provincial et Parigot, son temps se partageait entre Aurillac et la rue de l'Odéon. Denis Tillinac avait tout de suite su qu'il ne serait pas un adulte. Il ne croyait pas aux mensonges des grandes personnes. La France était sa cour de récréation. C'est en pensant à Tillinac que je lis dans Ouest France qu'en Normandie, un prêtre pour remplir son église a hier organisé une bénédiction d'écartables. C'est en pensant à Tillinac que je lis dans Lyon Républicaine qu'un autre prêtre a consacré une biographie à Saint Edmé, un archevêque anglais qui, fuyant son roi, était venu vivre et mourir chez nous. C'est en pensant à Tillinac que je lis dans l'église les vertus d'amitié et de solidarité de l'équipe de France de cyclisme et les souvenirs d'enfance de Julien Alaphilippe, enfant d'une cité de Saint-Amand-Moron qui aimait la variété française. Enfin, en pensant à Tillinac, que je lis sur le site Bastamag la mésaventure arrivée à un bois de sa chère Corrèze. Il y a 2 ans, septembre 2018, une association avait vu dans ce bois une biodiversité rare et avait levé des fonds pour l'acheter et la préserver. La gendarmerie et les renseignements territoriaux avaient averti la commune contre l'arrivée d'activistes anarchistes écologistes. L'association n'a pas acheté le bois. Il est, si j'en crois les photos, rasé. Que dirait Denis, lui qui ne prisait guère les écolos des villes, qui n'aime pas le Tour de France.
Et on parle aussi de viande, Claude.
Et je me demande encore et toujours ce que Denis Tillinac m'en aurait dit, qui regrettait le temps de la bonne chère, en voyant que West France relance aujourd'hui le lundi vert sans viande. Opération tentée sans succès l'an dernier, mais on y retourne pour les légumineuses. Ce serait bon pour la planète si nous renoncions au carnet une fois par semaine. Je lis dans The Conversation que le lundi vert, suivi par les Français, serait plus favorable à la planète qu'une diminution de 20 km/h de la vitesse sur les autoroutes. Tentez ? À la une de Dauphiné, j'en termine. Je vois qu'en Suisse, c'était hier jour de votation citoyenne. Allez sur le site du journal Suisse Le Temps pour voir la richesse de cette démocratie. Bref, à Genève, la votation a institué un salaire minimum de plus de 4000 francs suisses, près de 4000 euros mensuels. En deçà, on ne pouvait pas vivre, disaient ses promoteurs. Heureuse ville, fier pays.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse.